affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Voici un petit peu plus de 10 ans, le monde et bien sûr la France ont été frappés par l'une des crises financières les plus virulentes qu'ait connue l'histoire et dont nous subissons aujourd'hui encore les conséquences. Conséquences non seulement au plan économique et social, bien entendu, avec son cortège de récession et de chômage, son cortège d'appauvrissement, mais aussi au plan, bien entendu, politique et peut-être même morale, tant elle a ébranlé en profondeur la confiance que nous placions non seulement dans les marchés, mais aussi dans les institutions et peut-être même dans l'avenir. Il paraît que, prenant connaissance de l'ampleur de la crise, la reine d'Angleterre s'exclama devant un parterre d'économistes « Pourquoi tout cela? Comment a-t-on pu laisser faire ?» Hélas, il semble que la réponse à cette question n'ait pas encore trouvé de réponse satisfaisante, du moins qu'elle n'ait pas été entièrement reçue par l'ensemble des personnes chargées de ces questions. Pour le dire autrement, il semblerait que les réponses avancées à cette situation, à la stupéfaction qui nous a saisis, aient été de nous expliquer qu'il s'agissait d'un simple accident provoqué par quelques acteurs financiers indélicats, une sorte d'application en quelque sorte à la finance du fameux effet papillon, un seul battement d'aile sur le marché immobilier américain aurait entraîné l'effondrement de l'ensemble du système. Telle n'est pas la thèse qui va nous être exposée aujourd'hui. Nous avons en effet la chance de recevoir Jacques Delarosière dans notre studio. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Je précise une petite partie de votre curriculum vitae qui va que nos auditeurs connaissent, car je rappelle que vous tenez une chronique consacrée justement aux enjeux et aux défis économiques et financiers sur notre antenne. Mais je le reprécise, vous avez dirigé le Fonds monétaire international, vous avez été gouverneur de la Banque de France, puis président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Et vous venez de publier un ouvrage au titre qui claque, les 10 préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier. Il s'agit bien entendu, contrairement à ce que je développais précédemment, de revenir en quelque sorte aux sources de la crise et d'effectuer ce retour. Si nous étions sur une antenne anglo-saxonne, nous dirons « back to basics », retour aux fondamentaux qui permettraient d'éviter que les choses ne se perpétuent indéfiniment. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation d'abord ?
Oui, tout à fait. Et si on a pas répondu à la question de la reine d'Angleterre, comment a-t-on pu laisser faire tout cela, c'est que on continue de vivre sur des idées reçues, des préjugés, comme je les appelle, qui en réalité masquent la vérité. Et c'est au fond, derrière l'appareil économique de ce petit ouvrage, c'est au fond une question philosophique que je pose, qui est la suivante. Comment se fait-il que dans un monde dans lequel on a un accès pratiquement illimité à l'information à travers l'informatique, les moteurs de recherche, etc. Comment se fait-il que dans un monde aussi puissant en termes de recherche et d'information, on raisonne si pauvrement, on raisonne si mal? Parce que quand vous regardez les causes et le déroulement de la pré-crise et puis de la crise, vous voyez qu'en réalité, ce sont des chaînes de causalité assez simples qui se sont déroulées. Et elles n'ont pas été vues. Et elles n'ont pas été vues parce que on continue de chérir des modèles d'explication qui ont été peut-être valables à certaines périodes du passé, mais qui ne rendent plus compte de la réalité aujourd'hui. Et donc, ce qui m'a frappé dans toute cette histoire, c'est le décalage entre, d'une part, le préjugé, l'idée reçue, ce qu'on croit être vrai, on vous le rabâche, alors on finit par le croire, d'une part, et d'autre part, la réalité. Et l'écart entre la réalité, la vérité des choses et l'idée qu'on s'en fait est, à mon avis, de plus en plus grand. Et j'ai choisi, c'est ça l'objet de notre livre et de notre entretien, j'ai choisi une dizaine de sujets sur lesquels on a vraiment rabâché des idées reçues d'une manière tellement insistante que tout le monde y croit, que je me suis intéressé à revisiter cette dizaine d'idées reçues, et je me suis dit, mais tiennent-elles la route? Est-ce qu'elles ont des fondements qui feraient que, oui, c'est la bonne explication? Et je me suis aperçu dans les 10 cas que j'ai choisis que, dans aucun cas, les fondements n'étaient solides. Et donc, alors ça, c'est assez grave pour nos sociétés, parce que ça veut dire que ceux qui ont été choisis par les élections pour agir, pour déterminer les politiques, se sont fondés sur ces idées reçues, beaucoup plus que sur la réalité, pour prendre des décisions qui se sont avérées très fautives. Et donc, nous avons un tissu d'erreurs de politique économique qui se sont accumulées depuis une trentaine d'années et qui nous ont amenés à ce que j'appelle le désastre d'aujourd'hui, sans que on ait vraiment cherché la vérité, qu'on ait débroussaillé un peu tout ça et qu'on se soit dit, est-ce que c'est vrai ce que l'on nous raconte? Et alors c'est ça le livre, c'est une inquiétude sur l'écart entre l'idée reçue, le molle oreiller sur lequel on met sa tête et on se dit, oui, ça va comme ça, et d'autre part, la réalité et les défis auxquels nous et nos enfants, nos petits-enfants sont confrontés. Alors, donc, je suis à votre disposition pour étudier certaines de ces incongruités.
Oui, c'est ce qu'on va faire. En fait, ce qui est sidérant quand on parcourt votre ouvrage, se dire que dans une période d'avant la crise, on se dit que ça va tenir et que bon an, mal an, ça fonctionne, c'est une chose. Mais ne pas en tirer les conséquences dès lors qu'il y a eu un atterrissage aussi brutal, là, de fait, on commence à se dire qu'il y a une sorte de déni devant le réel, qui s'appuie donc sur un certain nombre de préjugés. Je vous propose qu'on examine le premier, car le livre est, je tiens à le préciser, construit de façon extrêmement pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a 10 chapitres qui correspondent à 10 préjugés qui sont énoncés. Commençons peut-être par le premier, car il est en quelque sorte fondateur. C'est le préjugé selon lequel plus on émet de la monnaie, plus cela favorise de la croissance.
Oui. Alors c'est en effet un mythe fondateur, si je puis dire, qui nous a guidés pendant des décennies. On peut considérer que depuis 20-30 ans, la politique monétaire a été très accommodante, comme on dit dans ce verbiage, c'est-à-dire très généreuse. Les banques centrales ont mis beaucoup de liquidités à la disposition du secteur bancaire pour que le secteur bancaire puisse le reprêter à l'économie. Et on s'est dit, plus on crée de cette liquidité monétaire, plus on va favoriser la croissance économique, puisque les agents économiques vont pouvoir emprunter à bas taux d'intérêt et relancer les affaires. Alors, ça, c'est ce qu'on nous a dit. C'est une consonance vaguement keynésienne qui inspire ce propos, mais qui en réalité n'est pas keynésienne, parce que j'ai revisité à l'occasion de ce livre le grand économiste qui était Keynes, et en fait il a toujours été très prudent sur la question de la création monétaire. Ce qui le hantait, Keynes, et qui malheureusement n'a pas hanté ses thuriféraires. Ce qui le hantait, c'était l'attrait pour la liquidité. Il disait, si vous créez trop de monnaie et que les taux d'intérêt sont trop bas, les gens ne vont plus investir leur épargne dans des emplois actifs, dans la création de nouveaux projets, de nouveaux équipements, etc. Ils vont les détenir sous forme de liquidité. Parce que si les taux d'intérêt sont trop bas, et si on ne gagne pas, si vous voulez, à épargner, à éviter de la consommation pour pouvoir épargner et mettre de l'argent à la disposition de l'économie, si on ne gagne pas assez d'argent, ça ne vaut pas la peine de transformer cette épargne en des titres, en des actions d'entreprise, etc., où nous risquons toujours l'aléa des affaires. Et à ce moment-là, si vous voulez, on n'est pas rémunéré. Et il appelait ça, en anglais, le hoarding, c'est-à-dire la thésaurisation. Le grand danger, quand vous baissez les taux d'intérêt, que vous facilitez trop la création monétaire, c'est que vous encouragez la détention de liquidités, c'est-à-dire la thésaurisation liquide, qui est l'ennemi, bien entendu, de l'investissement. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on a créé beaucoup de monnaie, on va avoir nécessairement beaucoup d'investissements et de création d'entreprises. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand on crée trop de monnaie, on a aussi des effets sur le système financier. Si vous incitez trop l'appareil bancaire à prêter, par définition, il va prendre davantage de risques. Parce que prêtant davantage, il va prêter à des emprunteurs peut-être moins sûrs. Et prenant davantage de risques, il s'expose, le secteur bancaire, à des faillites ultérieures dans le secteur de l'économie réelle. Et puis, si vous créez trop de monnaie, si vous créez trop de crédit, si vous avez trop d'emprunteurs, vous avez aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des bulles. Alors les bulles, c'est le parent inévitable de la création monétaire. Si vous créez beaucoup de monnaie, que vous permettez à des gens d'emprunter auprès des banques plus que de raison, qu'est-ce qu'ils font avec ces emprunts? En partie, ils font des choses réelles, espérons-le, mais en partie, ils sont attirés par l'achat de biens spéculatifs. Ils voient qu'ils ont de l'argent, alors ils peuvent acheter des maisons, des appartements, ils peuvent acheter des actions, et l'alimentation du système en liquidité crée toujours, et ça c'est une vérité qui est d'expérience, crée toujours ce qu'on appelle des bulles d'actifs, c'est-à-dire que le prix des actifs, le prix des appartements, le prix des actions, le prix des matières premières, tend à augmenter avec la distribution du crédit. Et donc, on est arrivé à la veille de la crise de 2007 à une situation extraordinairement dangereuse, parce que toutes les valeurs de crédit avaient monté considérablement. Les chiffres sont dans le livre. La croissance du crédit a été phénoménale. Et la valeur des actions en bourse, la valeur de l'immobilier ont cru de manière disproportionnée. Et donc, on avait une économie d'ébullition, une économie d'euphorie. Et à ce moment-là, vous êtes dans une zone extraordinairement dangereuse, parce qu'il suffit que quelques phénomènes arrivent. Par exemple, le prix des maisons a commencé à s'assagir aux États-Unis, le marché s'est retourné, et à ce moment-là, les gens qui avaient trop emprunté en pensant que le prix de leur maison augmenterait indéfiniment, se sont aperçus que ce n'était pas le cas. Et pour rembourser, ils se sont aperçus que les gages qu'ils détenaient, c'est-à-dire la maison, ce qu'on appelle le collatéral, étaient en train de diminuer. Et à ce moment-là, la récession a succédé à l'euphorie et tout le monde s'est mis à vendre des biens pour essayer de rembourser les emprunts exagérés qu'on avait faits, et le système s'est brutalement déprimé en une crise, comme vous l'avez rappelé, qui est la crise la plus grave qu'on ait connue. Certes, on a eu 1929 qui a été une crise de très grave dépression, mais on a eu une crise analogue en 2007-2008 et elle est née, cette crise, de l'excès de crédit, c'est-à-dire de l'excès de monnaie créée. Il faut comprendre que la monnaie se crée par le crédit. Quand vous ouvrez, quand vous allez chez un banquier et que vous lui demandez un emprunt, parce que la politique monétaire est favorable, qu'est-ce qu'il fait le banquier ? Il vous accorde l'emprunt. Et la première chose qu'il vous dit, c'est « vous allez ouvrir un compte chez moi ». Donc immédiatement, l'emprunt crée un compte bancaire. Et la création de monnaie est la fille légitime et inévitable de la création de crédit. Alors on a créé trop de crédit, on a créé trop de bulles, on a créé trop d'incertitudes dans la qualité, si vous voulez, des actifs du secteur bancaire. Et tout ça, c'est comme un château de cartes. C'est écroulé en 2007-2008. Mais ça s'est écroulé, comme c'était à des échelles phénoménales, en entraînant des conséquences très graves.
Tous les chiffres sont dans le livre, mais je peux peut-être en donner quelques-uns à nos éditeurs, parce qu'ils sont proprement stupéfiants. Comme vous nous le rappelez donc dans l'ouvrage, la dette privée américaine est passée de 100% du PIB en 1960 à 300% en 2007, triplant ainsi en valeur réelle en près de 50 ans. La dette globale des pays avancés, excluant celle des institutions financières, est passée de près de 200% du PIB en 2000 à 250% en 2007, 25% d'augmentation en 7 ans. La dette publique des pays avancés est passée de 20% du PIB à la fin des années 70 à plus de 80%, soit un quadruplement en termes réels. Quant à la dette privée de ces mêmes pays, elle s'est enflée à l'unisson, passant de 60% du PIB en 1970 à 165% du PIB en 2007.
Ce sont des chiffres faramineux. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que les responsables de la politique monétaire et donc de la politique du crédit ne se soient pas alarmés de cette situation d'extraordinaire exubérance du crédit. Et c'est là que vous trouvez le préjugé. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas alarmé devant la prolifération massive du crédit ?
N'importe quelle personne physique le ferait. Hein.
Mais oui, mais c'est parce qu'on s'imaginait que tant que l'inflation était à peu près maîtrisée, c'est-à-dire à peu près légèrement inférieure à 2% par an, on pouvait laisser le crédit s'accroître d'une manière illimitée. Et c'est une très grande erreur d'avoir cru cela. Il fallait s'occuper de la croissance du crédit. Et on ne s'en est pas préoccupé, peut-être pour une raison fondamentale à la racine, qui est expliquée dans le livre et qu'on appelle le consensus de Washington. Le consensus de Washington, c'est typique des idées fausses, des idées reçues. Ça a l'approbation de la profession financière, de la profession des économistes. Et c'est séduisant. Et je vais vous donner les deux postulats qui font le consensus de Washington. Le premier postulat, c'est que l'extension du marché financier, l'abondance du marché financier est de bon augure pour la croissance économique. Plus le marché est vaste, plus il est intégré internationalement, plus il y a des chances que l'économie croisse. Et le deuxième présupposé, c'est que les marchés ont toujours raison. Et que donc, ce n'est pas la peine de se préoccuper de ces chiffres que vous venez de rappeler, parce que, en fin de compte, le marché sait mieux que les dirigeants ou que les autorités ce qui est bon pour l'économie. Et en réalité, les marchés, dit le consensus de Washington, les marchés savent quand les choses vont trop loin, quand on sort un peu des valeurs fondamentales, ils savent se réfréner, se corriger, s'auto-corriger. Alors ces deux présupposés, c'est-à-dire l'extension la plus vaste possible du marché est bonne pour l'économie, et deuxièmement, les marchés s'auto-corrigent assez facilement et assez vite, ces deux présupposés sont faux. Le premier n'a jamais été démontré. On n'a jamais démontré que l'expansion et l'intégration mondiale du marché financier était bonne pour l'économie. On le croit instinctivement, mais en réalité, quand on fait une étude comparative que j'ai faite période après période, on s'aperçoit que dans la période de grande croissance d'après-guerre, celle des années 45 à 70, il y a eu très peu d'accroissement du crédit. Le crédit était en croissance, mais en ligne avec la croissance économique. Et donc, on ne peut pas dire que c'est l'expansion du marché financier qui a été à la base des Trente Glorieuses. Ce n'est pas exact. Les Trente Glorieuses ont été fondamentalement possibles parce que l'économie fonctionnait bien et les entreprises fonctionnaient bien.
Et le devenir réel primaire.
Oui. L'économie réelle privée sur l'économie financière. Et le deuxième présupposé, à savoir que les marchés se corrigent, a été cruellement démenti avec la crise de 2007-2008, où en réalité, rien ne s'est passé comme le préjugé de Washington l'avait prévu. Donc, si vous voulez, c'est le premier exemple que l'on donne sur la création monétaire est un assez bon concentré, si vous voulez, des paradoxes qui sont derrière ces différentes idées reçues.
Alors ça nous amène à parler du système financier international. Vous semblez regretter la période dite de Bretton Woods.
Oui, je la regrette de la manière suivante. C'est vrai que après la guerre, à partir de 1944-45, on a organisé un système mondial autour de l'idée que les taux de change devaient être stables les uns par rapport aux autres. Le taux de change, c'est la valeur de votre monnaie, de votre devise par rapport à celle des autres pays. Et on a pensé qu'il fallait obliger les pays membres du Fonds monétaire international à respecter une stabilité dans les taux de change quotidiens entre les différentes monnaies. Elle pouvait varier de 1% par rapport au dollar, mais pas plus. Et ce système a obligé les pays qui s'y étaient soumis en adhérant au statut du Fonds monétaire international, obligeaient ces pays à pratiquer une politique budgétaire et une politique de crédit, on vient d'en parler, qui était compatible avec la stabilité. Si un pays décidait de se lancer dans une politique de crédit illimitée, comme celle que nous venons de voir il y a quelques instants, il était immédiatement rappelé à l'ordre par son taux de change, parce que son taux de change se dépréciait. Si vous créez trop de monnaie dans le pays, vous commencez à avoir un doute sur la valeur de votre monnaie, vous avez des sorties de capitaux, et votre monnaie se déprécie sur le marché. Mais elle n'a pas le droit de se déprécier dans le système du 1%. Il faut qu'elle soit dans le couloir de 1%. Et donc, si vous butez sur ce couloir, vous êtes en difficulté et vous devez prendre votre canne et votre chapeau, aller trouver le Fonds monétaire international et avoir une vraie discussion sur votre politique économique. Donc, c'était en fait une manière d'assujettir, si vous voulez, les pays qui travaillaient dans le cadre du Fonds monétaire international à une politique cohérente, globale, de limitation de l'inflation et de discipline budgétaire et monétaire. Le jour où, le 15 août précisément 1971, où les États-Unis ont trouvé que cette politique des taux de change stables était trop gênante pour eux. Ils étaient en plein dans la guerre du Vietnam, ils avaient à financer ce conflit qui était devenu de plus en plus coûteux, compte tenu des armements et des bombardements qu'ils opéraient. Et les Américains ont buté, si vous voulez, sur le système de Bretton Woods. Ils n'avaient plus assez d'or pour assurer la convertibilité en or du dollar américain. Parce que le système fonctionnait de la manière suivante. Tous les pays devaient respecter la règle du 1% par rapport au dollar. Le dollar était le centre du système, mais il était le centre avec une condition, c'est que si les banques centrales jugeaient qu'elles avaient trop de dollars, elles pouvaient les présenter à la trésorerie américaine pour les convertir en or. Et l'or américain devenant de plus en plus modeste par rapport aux engagements en dollars, ils ont fini par par donner un coup de pied dans la fourmilière et à supprimer le système le 15 août 1971. Et le jour où ils ont fait ça, alors on a essayé de négocier pendant quelques années un rabibochage du système, mais quand on s'est aperçu que le système était vraiment détruit, qu'on était entré dans l'ère des taux de change flottants, où c'était les marchés qui déterminaient la valeur de la monnaie et pas le système lui-même, alors on a ouvert la voie à la financiarisation. Parce qu'avant, je l'ai expliqué, si on se financiarisait trop, on était en but à la difficulté de vivre à l'intérieur de la cohérence du Fonds monétaire. Mais à partir du moment où il n'y avait plus de cohérence, où on a dit vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre taux de change, eh bien on a fait ce qu'on a voulu. Et ce qu'on a voulu, ça a été de pratiquer une politique nationale à l'échelon de tous les États du monde qui soit guidée par le seul intérêt de la croissance maximale. Et alors ça peut être, si vous avez une vue très nationaliste des choses, ça peut être une bonne chose de se dire mon État va s'occuper exclusivement d'optimiser ma croissance. Mais l'expérience a montré que c'était aussi la porte ouverte à l'emprunt excessif, à l'endettement public excessif, à l'endettement privé excessif, et qu'on est arrivé de fil en aiguille, à partir de la fin des années 70, à cette financiarisation que je dénonce dans le premier chapitre de mon livre et qui est celui de la création monétaire à outrance par l'endettement. Alors, vous avez raison de dire que je regrette la fin de Bretton Woods. Je ne la regrette pas totalement parce que je sais que recréer Bretton Woods à l'identique présenterait beaucoup de difficultés et aussi beaucoup d'inconvénients aujourd'hui. Mais je pense néanmoins que restaurer une certaine stabilité entre les taux de change sous l'œil et la surveillance internationale serait une règle de bon sens. C'est la règle qui a permis la plus grande expansion économique que nous ayons connue pratiquement dans l'histoire de l'humanité. C'était une discipline qui était acceptée, qui certainement, dans une certaine mesure, limitait l'autonomie nationale, mais pour le bien, je dirais, de l'ensemble de la communauté internationale. Et je pense qu'on peut rétablir une certaine stabilité, pas une fixité totale, mais une certaine stabilité dans les taux de change à travers un organisme international du type FMI ou autre, et en maintenant un minimum de discipline. Je pense que c'est faisable techniquement, mais que ce n'est pas faisable politiquement, parce que ni les États-Unis ni les autres grandes puissances qui bénéficient de ce système flottant n'y sont vraiment enclines. Et donc, je pense qu'on en a encore pour un certain temps à vivre dans ce régime de liberté incontrôlée.
Oui, car pour être bien clair, vous ne remettez pas du tout en cause la nécessité pour des capitaux de pouvoir s'investir ici ou là dans un système mondial. Vous précisez d'ailleurs que lors de la première globalisation financière au 19e siècle, il y avait une libre circulation des capitaux, mais qu'à l'inverse de celle d'aujourd'hui, en revanche, c'est peut-être un autre point qu'il faut signaler, c'est que c'était des investissements plutôt à moyen ou long terme sur des dépenses d'infrastructures. Or, dans le nouveau système, ce n'est plus tout à fait
et vous l'avez tout dit. Vous êtes un lecteur averti de ce livre. Effectivement, entre la première mondialisation, celle de la deuxième partie du 19e siècle et du tout début du 20e, et la globalisation actuelle, il y a une très grande différence. C'est que la financiarisation extrême que nous connaissons aujourd'hui n'avait pas atteint les forces vives de la première globalisation. La première mondialisation, c'était une mondialisation où le progrès technique, c'est-à-dire les chemins de fer, l'électricité, etc., les téléphones, tout ça, ça a généré un mouvement de financement, mais de financement réel, par la voie des actions, la voie ce qu'on appelle de l'equity, c'est-à-dire du capital, de la modernisation technique. Et aujourd'hui, vous avez un système très différent. C'est la finance qui se finance elle-même et qui finance aussi je puis dire, la finance générale et les chiffres que je donne par ailleurs sur cette extrême financiarisation sont tout à fait significatifs. La finance américaine, pour vous donner une idée de ce que nous sommes en train de discuter, représentait 40% à la veille de la crise, c'est-à-dire en 2006-2007, représentait 40% des profits de la totalité de l'économie américaine. Or, la valeur ajoutée de la partie financière des banques et des institutions financières comme les assurances aux États-Unis n'était que de 8% du PIB. Et c'était déjà beaucoup. Mais ce n'était pas 40%. Et donc, la financiarisation à combler le vide, si vous voulez, entre 40 et 8. Et c'est cette financiarisation qui a énormément vulnérabilisé le système. Il a suffi d'une étincelle en 2007 pour que le système s'embrase. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ayant des économistes si réputés, ayant des banquiers centraux si convaincus de détenir la science monétaire, on ait laissé le système dériver d'une manière aussi effroyable. Et donc, quand la reine d'Angleterre, qui ne prononce jamais de jugement politique, vous le savez, et qui n'en a pas prononcé ce jour-là, mais elle a posé une question. Elle a dit, comment est-ce qu'on a laissé faire, comment est-ce que cet enchaînement a pu se dérouler? Et elle posait la vraie question. J'essaye dans mon petit livre de donner une idée, si vous voulez, de ce qui s'est passé. Et je peux vous dire qu'il est sorti il y a 2 mois. Je n'ai pas eu une critique sur cette causalité que je mets en évidence dans le livre. Alors, c'est un peu un problème de société que nous avons. C'est plus qu'une curiosité scientifique. C'est un problème de société. Comment se fait-il que des pouvoirs publics élus démocratiquement aient pu se laisser piéger, si vous voulez, par des théories aussi fumeuses, des préjugés aussi peu démontrés, des idées reçues ayant des fondements aussi superficiels? Comment est-ce qu'ils ont pu se laisser prendre par cette facilité? Alors j'ai une réponse à ça. Et cette réponse, je vais vous la partager avec vous. La raison profonde pour laquelle on a préféré les idées reçues à l'observation des faits, c'est que les idées reçues avaient un mérite. C'est qu'elles permettaient de se sortir de situations structurelles embarrassantes par l'emprunt. Si j'ai un secteur public relativement peu efficace et très preneur, très absorbant de richesses nationales, ce qui est le cas de la France.
On y reviendra. Sur ce point, on y reviendra.
On y reviendra. Mais si j'ai ça, j'ai 2 solutions. Ou je réduis la dépense publique non justifiée et je fais une action de réforme en profondeur qui est nécessairement peu populaire.
Coûteuse politiquement.
Ou bien, je me dis, comme vous l'avez dit vous-même dans votre introduction, bon, ben on peut laisser courir, on va emprunter un peu plus, le déficit budgétaire va augmenter cette année un petit peu plus. Mais... Et alors, on a à ce moment-là un effet d'accumulation et qui joue sur la dette publique, qui joue sur la dette privée, qui joue sur tous les phénomènes économiques. Et ces phénomènes d'accumulation ont une caractéristique, c'est qu'ils ne peuvent pas se poursuivre indéfiniment. Les arbres ne peuvent pas monter jusqu'au ciel. Il y a un moment où ça s'arrête. Et malheureusement, nous sommes au moment où c'est en train de s'arrêter.
Oui, c'est-à-dire que ce que vous nous expliquez, c'est que être dispendieux, avoir une politique monétaire accommodante, s'endetter, ne produit pas de terriblement bons effets économiques, mais le peu qu'il produit, c'est dans l'instant, donc politiquement, ça peut être un bénéfice.
On gagne du temps.
On gagne du temps, alors que des réformes structurelles, par définition, elles sont coûteuses dans l'instant, elles sont difficiles à mener, elles peuvent vous coûter votre place. Nous sommes dans un pays où il y a des élections tous les ans et demi, quasiment.
Donc, oui, mais c'est ça le vrai dilemme. Si on recule toujours devant les réformes structurelles, les réformes les vraies, et qu'on dit on va faire un peu de financement pour attendre, le financement finit par vous étrangler. Et on est dans une situation, en France par exemple, nous avons 100% de dette publique par rapport à notre PIB, et les économistes ont démontré qu'au-delà de 80%, un pays qui a une dette publique au-delà de 80 encourt un risque, plus qu'un risque, une certitude de décroissance économique par rapport aux pays qui sont moins endettés. Donc, si vous voulez, ça devient du sérieux. Et donc, il faut réagir.
Mais c'est là aussi peut-être qu'il faut revenir sur ce concept keynésien. On pense que, et vous démontrez bien le contraire, que Keynes prônait une politique de déficit pour la relance de l'économie, ce qui n'est pas entièrement faux, si j'ai bien compris, quand c'est à contre-cycle, mais que ce n'est absolument pas vu par lui comme quelque chose qui doit être structurel et permanent.
Oui, tout à fait. Alors là vous attaquez un autre préjugé, et je suis heureux que vous le fassiez, c'est celui de la relance par le déficit budgétaire. Keynes a donné ses lettres de noblesse à cette idée, parce qu'il a démontré que dans les périodes de profonde récession, le fait d'augmenter le déficit budgétaire en distribuant des subsides, si vous voulez, à l'économie, était de nature à relancer la demande. Et la demande, c'est la source, si vous voulez, de la reprise économique en période de récession. Ce qui était juste, et ce qui a permis de sauver, par exemple, les États-Unis à l'issue de la Grande Dépression de 1929. Mais ce que Keynes n'a jamais dit, j'ai cherché dans ses livres, il ne l'a jamais dit, c'est qu'il fallait pratiquer cette politique de relance par le déficit budgétaire indéfiniment. Il n'a jamais dit ça, il a dit que c'était une arme de conjoncture, c'est-à-dire dans les périodes de récession qu'on pouvait le faire. Mais si vous le faites continuellement, comme malheureusement nous l'avons fait en France, où la dépense publique n'a cessé d'augmenter depuis 20 ou 25 ans sans une exception. Si vous le faites continuellement, qu'est-ce qui se passe? Vous faites peut-être un peu de relance de la demande, mais ce que vous faites surtout, c'est une accumulation de dettes. Et cette accumulation de dettes, elle finit par avoir des effets secondaires, c'est comme un traitement médical, si vous voulez, des effets secondaires qui finissent par dépasser les effets primaires de la relance. Et ce que n'ont pas vu ceux qui se disaient les disciples de Keynes, c'est que il faut regarder la théorie de Keynes et celle du multiplicateur qu'il a si bien développé, il faut la regarder à l'aune de l'endettement. À l'époque où Keynes parlait, dans les années 30, l'endettement public était faible et on pouvait se permettre de faire de la relance budgétaire. Aujourd'hui, quand vous avez un endettement public de 100% du PIB en France, 132% en Italie, vous ne pouvez pas faire la même chose que vous faisiez en 1930. Et parce que vous avez des effets secondaires qui sont issus de votre dette. Et il le disait très bien, Keynes, il disait « faites attention à l'effet confiance ». Et c'est mystérieux pour certains, mais je vais vous éclairer le sens de cette phrase. Cette phrase voulait dire, oui, on peut faire de la relance par la voie du déficit budgétaire, mais si le déficit budgétaire devient trop problématique, devient trop important, alors il va miner la confiance. Parce que les gens savent qu'un déficit exagéré qui s'est accumulé dans un endettement public exagéré, ça va créer plus tard, le long du chemin, de la nécessité de faire des impôts pour rembourser tout ça. Et la nécessité de faire des impôts, c'est un élément de défiance à l'égard de la croissance économique. Et donc Keynes disait, il faut faire très attention à l'élément confiance. Et je pense qu'on est en plein dans le dilemme ici, c'est que si on appuie trop sur l'accélérateur keynésien et qu'on dit non, c'est pas grave, on va faire encore de la dépense publique et on va augmenter encore le déficit budgétaire, c'est pas grave, on va s'en sortir, on commet une énorme erreur. Et tout ça, c'est malheureusement démontré par des économistes qui eux, ont été minoritaires, si vous voulez, dans la voie commune qui a mené à ces désastres. Il y en a deux que je veux citer. Il y a Rogoff, qui a fait une étude clinique depuis le début du 19e siècle de tous les épisodes de croissance du déficit budgétaire et de l'endettement public, et qui a démontré que les crises d'endettement public, c'est toujours donne lieu à des récessions. Et d'autre part, vous avez Minsky, qui est un grand économiste, qui a montré que l'endettement public et privé conduisait fatalement à la crise. Et il a particulièrement bien, si vous voulez, décelé les différentes parties du scénario qui mènent du début de la crise à l'éclatement de la crise. Et donc...
C'était prévisible, cette crise.
C'était prévisible. Et de plus, il y a des études empiriques qui sont très claires et qui montrent que le surcroît d'endettement, notamment immobilier, notamment... en matière hypothécaire, donne toujours lieu, mais c'est des régularités économiques absolument incroyables, donne toujours lieu 3, 4, 5 ans après à la crise. Alors je pense qu'on était très informés de tout ça, et c'est ce qui rend, si vous voulez, le paradoxe que je décris dans ce livre d'autant plus surprenant, c'est qu'on ne pouvait pas dire, bah oui, mais c'était un terrain inconnu, on n'avait jamais défriché ça. C'est pas vrai, on l'avait défriché. Mais on n'a pas voulu le voir. Et on n'a pas voulu le voir parce qu'on était persuadé que, en fin de compte, la finance s'occuperait d'elle-même. C'était l'idée de Greenspan. Et il disait, non, mais vous occupez pas trop du marché, il s'autorégule. Et en fait, il s'est pas autorégulé, il est devenu tout à fait exacerbé, et le système a plongé dans le désastre. Et là, il a fallu ramasser les morceaux, que les banques centrales achètent tout ce qui se présentait et augmentent leur bilan d'une manière massive. Mais donc, si vous voulez... Le système s'est emballé.
Moi, j'ai l'impression, quand j'entends ça, qu'on cumule en quelque sorte tous les inconvénients. Les inconvénients de la dérégulation, car elle existe quand même, la dérégulation financière, cette financiarisation de l'économie mondiale. Là, on est bien dans un cadre qui est de l'ordre du laisser-faire. Et en même temps, les inconvénients d'un interventionnisme débridé tel que même Keynes ne le reconnaîtrait pas. Est-ce que c'est un bon résumé de la situation
Oui.
Pour la France, en tout cas.
Non, mais le système s'est complètement déréglementé. Alors, il se re-réglemente après la crise, parce qu'on est obligé de demander aux banques d'augmenter leurs fonds propres, on est obligé de demander aux banques d'accroître leurs liquidités, etc. Donc, si vous voulez...
Mais ça, ce sont des mesures qui sont faites pour éviter l'accident.
Oui, tout à fait. Mais elles ont un élément bénéfique en elles. C'est qu'elles assainissent le système bancaire dans une certaine mesure. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. Mais ce qui reste... comme disent les Américains, libertarien, c'est plus que liberté, ce qui reste complètement déréglementé, c'est la politique monétaire. Et là, je trouve que nous n'avons pas fait de progrès, puisque c'est après la crise qu'on a mis en place ce qu'on appelle le quantitative easing, l'aisance quantitative monétaire. C'est après la crise, pas avant. Et donc on a replongé, si vous voulez, dans l'excès de création monétaire. Et aujourd'hui, certaines banques centrales, comme la Banque américaine, la Fed, sont obligées de reprendre un peu la main, c'est-à-dire de recréer des taux d'intérêt positifs, de réduire un peu la taille de leur bilan, d'arrêter d'acheter tous les titres d'État qui se présentent sur le marché. Et c'est ce retournement encore modeste, mais néanmoins commençant, de la politique monétaire américaine qui est en train de perturber les marchés, parce qu'on les a tellement habitués à la drogue de la liquidité absolue que quand il y a un dealer qui est absent, on commence à se poser des vraies questions. Et ben, vous excusez cette comparaison n'est pas raison en l'occurrence, mais il y a un peu de ça, si vous voulez. La création de liquidité a joué un peu un rôle euphorisant, et maintenant on est en train d'essayer de reprendre un peu la main, mais on a du mal. Et donc voilà, nous sommes dans une situation qui est difficile, et peut-être que vous voudrez m'interroger sur certains aspects actuels en France.
Moi j'aimerais savoir de quelle façon en France aujourd'hui nous tirons les conclusions de cette crise et dont nous préparons à tirer notre épingle du jeu de cette situation que vous décrivez comme délicate.
Oui, alors je vais vous répondre sans phare à cette interrogation, à la lumière de l'actualité sociale et économique la plus évidente, qui est celle en particulier des Gilets jaunes. Moi, je pense que le mouvement de ras-le-bol fiscal qui caractérise une partie des revendications des Gilets jaunes est un mouvement qui s'explique par l'excès de pression fiscale qui existe en France. Je vais vous en donner une idée. La pression fiscale, c'est-à-dire le poids de toute forme d'impôts et de taxes et de contributions obligatoires qui pèsent sur le PIB, c'est aujourd'hui 45% du PIB. Dans la moyenne européenne, c'est autour de 39%. Ça fait donc 6 points de PIB d'écart, ce qui est considérable. Ce n'est pas une curiosité amusante, c'est considérable. C'est la différence entre la vie et la mort pour une entreprise. Si elle a 7 points de PIB, cette entreprise, à payer de plus en contributions et taxes que ses voisines européennes...
Dans un marché ouvert, ce n'est pas une bonne affaire.
Mais oui, en marché ouvert, les marges, c'est... Si vous êtes compétitif à 1%, si vous perdez 1%, vous êtes fichu. Si vous perdez 7%, c'est même plus la peine d'en parler, vous n'existez plus. Donc, le ras-le-bol fiscal est inscrit dans les courbes qui sont dans ce petit livre. Et ce qu'on peut s'étonner, ce sur quoi on peut s'étonner, c'est qu'il se soit manifesté si tard, à 45%, alors qu'il aurait pu se manifester plutôt sur la courbe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et là je vais faire moins plaisir aux Gilets jaunes, la deuxième chose, c'est que si cette pression fiscale s'est tellement accrue, c'est que la hausse de la dépense publique s'est aussi beaucoup accrue. Nous sommes en France à 56% de dépenses publiques rapportées au produit intérieur brut, alors que la moyenne européenne est plutôt autour de 48 ou 49. Et les Allemands sont significativement en dessous. Et donc vous avez le même problème. En ce qui concerne la dépense publique, nous sommes les champions à hauteur de 7-8% du PIB. Et c'est ce qui explique que la fiscalité est obligée de suivre. Alors il n'y a pas une correspondance entre 45 et 56 parce que, en grande partie, la différence est empruntée par le déficit budgétaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on veut devenir un État normal du point de vue du fonctionnement de sa société, il va falloir réduire la pression fiscale, comme le demande à sa manière, si vous voulez, la manifestation publique. Mais il faut concurremment réduire la dépense publique. Parce que si on continue à garder 56%, mais qu'on baisse le 45% à 38%, alors c'est injouable. Oui. Le déficit explose. C'est injouable. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas faisable. Et moi, je vous dis, Monsieur Blanc, c'est faisable. Et alors, je m'aventure dans ce terrain qui n'est pas le mien, mais je vais fournir à vos auditeurs ma pensée. Je pense que parmi les 56% de dépenses publiques, il y en a qui sont très justifiées, il y en a même qui sont insuffisantes. Notamment dans certains aspects de la vie sociale. mais il y en a beaucoup qui sont tout à fait excessives. Alors je vais vous citer deux ordres de grandeur, ou trois ordres de grandeur dans la partie excessive, et sur lesquelles il faut qu'on s'entende socialement. La première, c'est l'âge de départ à la retraite. Nous sommes le seul pays au monde où on peut partir à la retraite à 62 ans, alors que l'espérance de vie a augmenté de 5 ans depuis quelques années. Et une espérance de vie en bonne forme. Alors, il est normal que si l'espérance de vie augmente, le temps de travail augmente aussi un peu. Et le fait de passer de 62 à 65, voire 67 ans, comme le font la plupart de nos voisins, n'est que la traduction d'une vérité démographique. Et c'est une vérité démographique qu'il faut traduire en fait, parce qu'elle a un contenu social et intergénérationnel. Si les seniors s'accrochent à 62 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les actifs, qui sont de moins en moins nombreux, vont être obligés de payer davantage de cotisations pour payer la retraite des retraités. Et à l'époque où vous aviez 5 retraités, je veux dire 5 actifs pour un retraité, vous pouviez relativement facilement financer sa retraite.
Ça, c'était dans les années 50.
C'était dans les années 50. Aujourd'hui, vous avez 1,8 actifs pour un retraité, et vous lui demandez l'impossible à cet actif pour financer une retraite convenable pour le retraité. Vous lui demandez l'impossible. Et est-ce qu'il faut demander l'impossible à ses enfants et à ses petits-enfants dans le système? Je ne le crois pas. Je crois qu'il faut rétablir un équilibre entre les retraités, d'une part, et leurs cotisations, et d'autre part, les actifs. Je pense que cette solidarité intergénérationnelle, elle est à la base du consensus social. Et que le fait de toujours se masquer en disant non, on ne va rien demander aux retraités, ça veut dire, en fait, on ne le dit pas, mais ça veut dire on va tout demander aux actifs. Et les actifs, ils n'en peuvent plus. C'est eux qui sont dans la rue. Alors, je crois qu'il faut traiter ce problème du déficit des retraites en France, qui est le plus grand de tout ce que nous avons en Europe. Il faut le traiter en numéro un. Et il ne faut pas le traiter d'une manière technocratique en disant on va faire un système de points et tout le monde va s'y retrouver à la fin. Non, il faut dire aux Français la vérité. La vérité, c'est que vous vivez plus longtemps et on ne peut pas financer un système de répartition si vous ne cotisez pas 3 ans de plus. C'est pas la fin du monde de cotiser 3 ans de plus. Et c'est pas une mesure antisociale. Ça, c'est la première chose. Le deuxième locus, le deuxième centre de la non-productivité du système public français, c'est le système territorial. Tout le monde le dit, mais personne n'y touche. Il y a une superposition de communes, de communautés de communes, de départements, de régions, qui font que les duplications, les doublons se multiplient à chaque niveau.
Et vous dites que lorsqu'on a transféré aux échelons inférieurs des compétences qui étaient avant celles de l'échelon national, le budget restait le même pour l'échelon national.
Pratiquement. Et donc ça, c'est un scandale absolument éhonté. C'est-à-dire qu'on a dépourvu un certain nombre d'autorités nationales de leur pouvoir, puisqu'on les a déléguées aux régions, et elles ont conservé une partie de leur crédit. Alors, le millefeuille territorial, c'est pas un sujet d'indignation, c'est un sujet pratique. Il faut le traiter, et il faut le traiter avec transparence et sur la place publique. Parce que vous n'aurez pas le miracle que l'on devrait souhaiter. Et c'est le côté positif, si vous voulez, de l'agitation sociale française actuelle, qui est de mettre les problèmes sur la table, de faire table rase, de dire bon, ben d'accord, on va tout mettre à plat. Vous n'aurez pas de résultat si vous n'avez pas la capacité de traiter le problème du millefeuille territorial d'une manière ouverte, Alors, on ne va pas réduire massivement le nombre de fonctionnaires locaux, mais on va dessiner un système qui fera que, par attrition, le système se normalisera. Et puis, la troisième poche d'inefficacité qu'on peut reprendre, c'est la multitude de services publics dénoncés par la Cour des comptes comme inefficaces. Et alors, on a un petit sentiment d'indignation quand on lit le journal le jour où le rapport de la Cour des comptes sort. Et puis après, le rapport de la Cour des comptes se met sur une étagère et on n'y pense plus. Et alors, il faut pas faire ça. Il faut agir. Si vous agissez sur les retraites, qui ont un gros effet de levier, parce que pendant 3 ans, vous allez avoir des cotisations et pas de retraite à payer. C'est l'effet tonnage est phénoménal. Si vous faites mais que vous le faites en vérité, sans dire je fais un système de points compliqué, si vous dites la vérité aux Français, il faut travailler plus longtemps. Si vous attaquez le millefeuille territorial comme il faut, c'est-à-dire avec la notion d'efficacité, et que vous travaillez sur les rapports de la Cour des comptes, vous allez vous gagner ces 3, 4 points de PIB qui vous permettront de gagner, si vous voulez, une norme européenne. Alors moi, je crois que si on ne fait pas ça, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut baisser les impôts, parce qu'il y a le ras-le-bol fiscal. Mais si on ne fait que baisser les impôts et qu'on laisse la dépense publique là où elle est, par définition, on n'a pas traité le problème. Si on ne fait que baisser drastiquement la dépense publique, on va avoir d'énormes problèmes sociaux. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut le faire en tandem, comme je l'explique. Vous faites la retraite et la baisse du prélèvement fiscal et les efforts sur la dépense publique. Ça, je ne pense pas que l'opinion publique puisse beaucoup résister à ça. Parce que sur ces 3 chapitres que je viens de dénoncer, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un crime contre l'humanité de faire partir les Français à la retraite à 65 ans, alors que c'est le cas de la totalité de tous les autres pays ? Il est évident qu'on ne peut pas le dire. C'est absurde. Et moi, je pense que le corps social est prêt à l'accepter. La deuxième chose, c'est le système territorial. Est-ce qu'il y a un Français qui peut soutenir qu'il ne faut rien changer au millefeuille ? Mais il n'y en a pas un qui l'accepterait. C'est une idée force, une idée sociale. Et la troisième, c'est les rapports de la Cour des comptes, c'est la démocratie qui s'exerce. Après tout, le budget, c'est un acte démocratique. Il faut regarder où va l'argent. Et ils le disent, les gilets jaunes. Ils disent, mais vous êtes bien gentils, vous me mettez une taxe sur le pétrole. Mais c'est moi qui la paye, cette taxe, parce que c'est vrai que ce sont les pauvres gens qui payent les taxes indirectes. Et ils disent, mais ça va où ? Et cette question, c'est la vraie question de la démocratie. C'est la question démocratique fondamentale de l'Angleterre au XVIIe siècle. C'est où va l'argent ? Je suis électeur, je suis capable de voter sur où va mon argent. Et donc, moi, je pense que si on a le courage de mettre tout ça sur la table et de le faire d'une manière, si vous voulez, explicative, claire, on peut gagner. Et si on dit... Si tout c'est des arrière-pensées, c'est non, mais je ne veux pas faire de peine à celui-là, alors ça ne mène à rien. Voilà.
Je suis d'accord avec vous, et pour aller dans votre sens, je pense qu'il y a autre chose qui se manifeste à travers la crise actuelle, mais qui est une angoisse pour l'avenir, une angoisse justifiée pour l'avenir. Je pense qu'à travers ces manifestants, certains manifestent pour leur niveau de vie aujourd'hui, mais de façon sous-jacente, il y a aussi le sentiment que la promesse d'une amélioration des conditions de vie pour les classes moyennes est rompue. Or, elle est rompue justement par 30 ans d'immobilisme, de refus de trancher et de prendre des décisions peut-être douloureuses dans l'instant, mais bénéfiques pour les générations, les années, les décennies et les générations futures. Cette histoire des retraites est un des cas, mais cette question, j'ai l'impression, traverse l'ensemble de l'ouvrage, car au fond, c'est cela, on reporte, on reporte, on reporte. Et comme cela, indéfiniment, Or, un contrat social, ce n'est pas fait simplement pour faire tenir la société dans l'instant, mais dans la durée.
Absolument, et pour l'avenir. Merci beaucoup.
Merci à vous, et j'incite nos auditeurs à ne pas en rester à notre conversation, mais à se procurer l'ouvrage, à tenir le choc du réel, car il est constellé de chiffres qui permettent justement de retrouver ce sens de la réalité. Il y a quelques préjugés que nous n'avons pas abordés et qui méritent aussi d'être vus, et notamment celui de la dégradation de la balance commerciale française, un problème mal posé, nous dit Jacques Delarosière, et qui nous explique à quel point, là aussi, notre avenir est en jeu. Si l'avenir du pays et celui des générations futures vous soucient, eh bien, il faut se procurer cet ouvrage et même le diffuser. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Merci. Thank you.